Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de focus réalisée avec Virginie de Bongrimouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités. Nous les avons réalisés en une seule après-midi, c'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour Cédric.
Alors merci beaucoup d'être là. Donc c'est le premier épisode de notre série de Focus qu'on réalise suite au vote des gens sur Instagram.
Ouais.
Et donc le tout premier sujet que tu avais proposé et pour lequel les gens ont voté à une très grande majorité, c'est accepter de ne pas être parfait avec ses enfants.
Exactement.
Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire ? Je te laisse mon micro.
Ouais.
C'est à toi.
Alors déjà, je voudrais remercier tous tes auditeurs et auditrices pour l'accueil, parce que c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que quand j'avais réécouté du coup notre échange, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai proposé en sujet au focus, parce que j'ai eu le regret, j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais j'avais un petit regret, c'était de ne pas avoir parlé assez de cette partie-là, de la partie, oui, mais quand on commence un petit peu à se renseigner ou à voir d'autres parents, ou inconsciemment ou consciemment, on commence à se comparer et à culpabiliser. Et la culpabilité, ça amène pas à grand-chose de bon quand elle est trop présente. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette culpabilité qu'on ressent, parce que justement, on veut toujours être mieux, être parfait, et on focalise sur ce qui va pas, quoi. Donc, la culpabilité, elle apporte quand même quelque chose. C'est-à-dire que quand on ressent une culpabilité à pas avoir fait, à mal avoir fait, ou avoir l'impression de mal avoir fait, ça permet justement d'aller chercher en soi, de réparer, quoi, de vouloir réparer. Par exemple, quand quelque chose ne nous convient pas, on le change. Si je me sens coupable de l'avoir fait, je vais le changer, je vais essayer de réparer. Ou il y a des fois, ça va être réparé aussi auprès de l'enfant, mais réparé aussi en soi, parce que, je sais pas, je prends le cas de l'allaitement, j'ai eu beaucoup de messages, de commentaires qui me parlaient de la culpabilité de l'allaitement, de pas avoir allaité, et j'ai un petit bébé qui se réveille. Et c'est vrai que là, c'est difficile de réparer, puisque c'est déjà fait, mais ça va être réparé en soi, ça va être accepté d'avoir eu la malchance d'être mal conseillé, accepté de ne pas avoir su certaines choses qui auraient pu peut-être nous aider, et accepté que c'est notre chemin de vie, que notre bébé il va bien quand même, que tout va bien, qu'on a quand même passé des bons moments, et que c'est pas parce qu'il n'a pas été allaité, etc. Enfin voilà, c'est vraiment s'enlever cette pression de la perfection, quoi. Et accepter ses erreurs, accepter toutes ses imperfections. Donc concernant, voilà, ça peut être l'allaitement, ça peut être, je veux pratiquer la motricité libre. Par contre, moi, je l'ai mis dans le transat pendant qu'il était tout petit, tout le temps. C'est vraiment d'être indulgent envers soi-même. On est tous sur notre chemin. Alors, c'est sûr que c'est important d'élever un petit peu l'éducation, c'est-à-dire de changer un petit peu cette éducation classique basée principalement sur les violences éducatives ordinaires qu'on voit parfois même pas, donc de se renseigner, etc. Mais c'est important aussi de pas tomber dans une recherche de la perfection, de l'intégrisme, en fait, de toutes ces pratiques.
C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, tu vois, tu parles de l'allaitement, tu parles de la motricité libre. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, hein, c'est aussi les VO,
ouais,
quoi. C'est vraiment ces violences éducatives. de se dire « Mon Dieu, je viens de crier sur mon enfant, ça y est, ça, le lien est foutu, le lien est machin. » Non, non, on peut savoir ce que c'est le lien d'attachement, on peut savoir ce que c'est l'attachement sécure, on peut avoir conscience de son propre travail sur soi à faire aussi dessus. Mais justement, on fait un travail, on va pas tout d'un coup claquer des doigts et c'est parti. Selon son état de fatigue, selon son état de, de conscience, selon son état de plein de choses.
C'est vécu aussi, parce qu'on parle pas, on part pas tous du même point. Je veux dire, quand on a nous-mêmes vécu des violences, pas forcément que éducatives parfois, ou que éducatives, mais qui sont ancrées en nous, ça va être différent de la personne qui en a subi moins, ou aussi le soutien. Enfin, il y a plein de choses autour de soi qui vont faire que c'est pas parce qu'un tel y arrive, c'est pas parce que là sur les réseaux sociaux j'ai vu elle fait ça, elle montre ça, elle explique ça, moi j'y arrive pas ou peu. Bah oui, mais cette personne-là, elle a pas du tout le même vécu, elle a pas les mêmes bagages, elle a pas non plus le même soutien, elle a peut-être un conjoint qui ou une conjointe qui va pas du tout la soutenir là-dedans. Elle a peut-être un entourage, une famille qui va sans arrêt appuyer sur des choses qui vont être difficiles. Et c'est vrai que cette volonté de enfin cette volonté de quand on a l'impression de pas être parfait, d'être nul, j'ai souvent entendu je suis nulle comme maman. Je me dis mais on peut pas dire qu'on est nul. On fait forcément de notre mieux en fait avec ce qu'on a, avec les bagages qu'on a, avec les informations qu'on a. Et justement c'est ça s'apporter ben de l'amour à soi. En fait la bienveillance qu'on veut donner à notre enfant, il faut déjà se l'apporter à soi-même. C'est-à-dire que si on ne veut pas être bienveillant envers soi-même, et c'est valable aussi pour les autres, moi j'ai remarqué que, puisque moi j'étais pareil, je veux dire, quand j'ai commencé à être maman et avoir mes idées en tête sur l'éducation, sur les VEO, sur toutes ces choses que je voulais faire parce que je les avais lues et que j'avais trouvé ça super et que je voulais ça pour mon enfant, quand j'y arrivais pas, ça allait pas, et surtout j'étais dans le jugement tout le temps des autres. Et voilà, j'ai entendu plein de fois, quand on trouve quelque chose qui ne va pas chez l'autre, généralement, c'est que ça ne va pas chez nous, en fait. Sinon, ça ne nous dérange pas autant chez l'autre.
Il y a une expression que j'aime bien, c'est qu'il est plus facile de voir la paille dans l'œil de son voisin que la poutre dans le sien.
Ça, en fait. Et quand on commence à être indulgent, moi, ça a commencé dans ce sens-là. Enfin, je pense que c'est propre à chaque personne, mais quand on commence à être indulgent envers les autres en se disant, bah ouais, mais peut-être que cette maman, là, elle l'a secoué un coup, c'est sûr que c'est violent, etc. Mais c'est pas elle le problème, c'est ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle a vécu ça. Donc, moi, je me rappelle quand mon fils commençait à me demander, mais pourquoi il lui crie dessus ou des choses comme ça. Je disais, peut-être parce qu'on lui a crié dessus quand il était petit et peut-être qu'il se rend pas compte qu'il est en train de refaire la même chose. Et quand j'ai commencé à être indulgent envers les autres, du coup, je l'étais beaucoup plus facilement envers moi-même, sur mes erreurs, sur des choses que j'arrivais pas à faire. Et c'est vrai que du coup, c'est plus facile. C'est plus facile après d'aller s'excuser aussi auprès de son enfant quand on n'est plus dans la culpabilité, on est dans la conscience de l'erreur, mais on n'est plus dans la culpabilité qui nous ronge, quoi. La culpabilité, elle est bien au début. C'est un sentiment qui est important, qui nous sert à quelque chose, comme toutes les émotions qui nous traversent, elles nous servent à quelque chose. Mais quand elle prend le pas, quand elle prend toute la place, là, par contre, ça devient nocif. Donc c'est vrai que la culpabilité, comme je disais au début, c'est quelque chose qui nous sert. Si elle est trop, il faut faire quelque chose pour l'enlever, pour l'adoucir, et donc réparer. Et réparer, ça peut être ça aussi, c'est se donner de l'indulgence, se donner de la tolérance, et en donner aux autres. Ce qu'on donne aux autres, on le reçoit et on se l'apporte à nous plus facilement aussi. Quoi.
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance à dire, notamment, tu vois, sur tous les principes de déconstruction, que ce soit sur la parentalité, que ce soit sur le féminisme, que ce soit même sur les problèmes de racisme, il y a des déconstructions qui sont en cours. Et j'ai tendance à dire, notamment au tout début de mon podcast, que la culpabilité, si à un moment vous la ressentez, c'est qu'il y a un truc à creuser. C'est qu'à un moment, vous n'êtes pas aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça, c'est que la culpabilité, pour moi, c'est un indicateur de ça. Ça ne doit rester qu'un indicateur. C'est-à-dire qu'après, tu vois, comme tu dis, il faut réfléchir sur qu'est-ce qui est à ma main, qu'est-ce qui n'est pas à ma main, et se dire, ok, c'est ok. Juste se dire des fois, bon, c'est ok. Bon, ben, moi, ma fille, j'aimerais tellement faire plein d'activités avec elle. Je te racontais tout à l'heure que mon week-end avait été éprouvant. J'ai envie de faire plein d'activités avec elle. Ouais, sauf que là, je suis pas en état, j'ai pas l'énergie. Et si je me force, ça risque surtout de mal se passer. Bon, ben, cet après-midi, elle va être en roue libre et c'est OK parce que je vais faire ma larve sur le canapé.
Et si tu le dis en conscience, à ce moment-là, ça t'évite aussi la culpabilité. C'est-à-dire que tu sais que là, t'es pas, c'est sûr que tu fais une différence entre ce que tu aimerais au mieux pour ta fille et ta conscience de ce qui serait au mieux pour toi aussi, quoi. À partir de là, voilà, tu pèses
Bien
le pour et
sûr.
le contre et tu vois, est-ce que si tu forces, ça va lui apporter quelque chose? Ben non. Non, ça lui apportera pas ce que de toute façon tu aimerais lui apporter dans les meilleures conditions. Donc, ça, oui, je suis d'accord avec tout ça, mais ça, c'est en amont. Si le travail a pas, si cette conscience n'est pas là en amont, du coup, forcément, après, on tombe dans j'aurais dû, je suis nulle, moi, j'arrive pas à faire ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui peuvent aider. Déjà, de se dissocier de quand on lit quelque chose, quand on voit quelque chose, quand on voit une jolie photo sur Instagram d'une maman heureuse avec ses enfants, ou d'un papa qui s'occupe de son petit, ou d'un papa qui a quitté le travail pour s'occuper de ses enfants, par exemple. Voilà, quelque chose, en tout cas, à laquelle on aspire, ou qui nous donne envie, même ponctuellement, faut savoir se dissocier de ça. Ces personnes-là font des choses, c'est quelque chose que j'aimerais faire, etc., mais c'est pas moi. Cette personne-là, si elle en est là, voilà, elle a peut-être des conditions qui sont différentes des miennes, elle a fait des choix qui étaient différents des miens, etc. Et c'est vrai, déjà de mettre une distanciation entre ce que je lis et ce que je vis dans ma vie, ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois, ou ce que je lis dans ma vie, c'est-à-dire les autres et moi, ça évite déjà cette culpabilité qu'on va remettre sur l'autre. Ouais, mais ce que tu fais, ça me culpabilise. Cette phrase, elle a pas de sens, en fait. C'est pas ce que tu fais, ça révèle, oui. Et c'est pas ça qui te culpabilise. C'est toi avec toi-même la culpabilité, comme tu dis, c'est quelque chose qui est totalement personnel. Ça vient de l'intérieur, la culpabilité, ça vient pas de l'extérieur, quoi. Alors il y a des choses qui vont révéler, et c'est tant mieux. Après, c'est justement, c'est grâce à ça qu'on va se dire, mais du coup, sur quoi je peux travailler pour me sentir mieux, quoi.
Et je te dirais, parce que tu parles d'Instagram, moi ça me fait vraiment plaisir que t'en parles, parce que c'est vrai que je regarde un petit peu différents profils, et je pense à certains profils en effet où tu vois tout est brillant, tout est roux-doudou, tout est chamallow, tout est assorti, tout est machin, tout est magnifique. Et tu sais, il y a cette petite checklist de la parentalité éclairée, genre voilà, alors c'est
C'est
bon, j'ai
ça,
fait
ouais.
la chenille. J'ai fait l'ADEME, j'ai utilisé des couches lavables, je suis dans le respect de l'enfant, j'ai fait, je sais pas, de la motricité libre. Voilà, est-ce que j'ai bien tout coché? Est-ce que j'ai tout fait parfaitement? Non, mais c'est pas ça. C'est être éclairé, c'est aussi prendre ce qu'on a envie de prendre et besoin de prendre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et mettre en pratique ce qu'on arrive aussi à mettre en pratique. Sachant qu'après, il y a des choses sur lesquelles on peut se faire accompagner aussi et se faire aider. Il y a de très très bons supports faits par des illustratrices de talent, notamment pour aider là-dessus. Mais autopromo. Mais blague à part, voilà, il faut vraiment sortir de ce côté, cocher toutes les cases, tu vois.
C'est ça, oui. Oui, et tu vois, c'est cette chose-là, enfin, moi je l'appelle l'intégrisme éducatif, quoi. C'est que ce soit sur les VO, enfin voilà, sur l'éducation, comme on peut dire, bienveillante et positive et tout ça, des termes que j'utilise pas parce que justement ça renferme complètement sur ça c'est bien, ça c'est mal, quoi. C'est intégriste aussi pour la motricité libre, pour où justement il y a une façon de faire. Je pensais aussi à la DME, je crois que c'est Ergomum, hein. Il n'y a pas très longtemps qu'on a parlé de ça aussi en disant, mais non, c'est pas à tel âge qu'on commence, c'est pas avec tel légume qu'on commence, c'est pas. Non, c'est un principe global qui va parler ou pas, et après, ben voilà, on connaît les grandes lignes, et après, on se fait plaisir, c'est du freestyle, c'est du plaisir avec son enfant, quoi. Et si on suit une directive qui n'est pas la nôtre, si on suit un chemin qui n'est pas vraiment nôtre, parce qu'on le suit parce que justement, bah, c'est ce qu'on pense être le mieux, parce qu'un tel a fait ça, parce que machine fait la promotion de ça, etc. Ben on n'est plus aligné avec nous-mêmes, on n'est plus, on est un petit peu décentré. Et l'enfant, de quoi il a besoin? Est-ce qu'il a besoin réellement, sans parler de VO ou quoi, est-ce qu'il a besoin d'un parent qui a un décalage un petit peu tout le temps, hésitant, sans savoir vraiment ce qu'il faut qu'il fasse ou dans quelle position faut qu'il se mette? Ou est-ce qu'il a besoin d'une stabilité, d'un parent stable, d'un pilier, d'un parent qui sait où il en est, même s'il est dans l'erreur, même s'il fait des erreurs et qu'il a conscience qu'il a fait des erreurs. Et notamment, par exemple, s'excuser, ça fait partie de quelque chose de stable pour moi. J'ai souvent entendu, quand j'étais plus jeune aussi, mais encore maintenant, par les personnes qui sont un petit peu, voilà, ma grand-mère, que s'excuser, ben non, ça ne se fait pas. Ça veut dire à ton enfant que tu t'es trompé. T'es l'autorité, c'est pas à toi de faire ça. C'était pas ma grand-mère qui m'avait dit ça, mais bref. Et je me dis, mais non, au contraire, quoi. Montre-lui que tu es assez stable, assez bien dans tes baskets pour te dire, regarde, là je me suis trompée, j'ai conscience que je me suis trompée, et du coup je viens m'excuser auprès de toi. J'ai crié à ce moment-là, j'ai crié, j'ai été agressive, j'ai crié contre toi, et c'était pas juste, c'était pas de ta faute, et c'est moi qui suis pas bien, c'est moi qui ai pas réussi à accueillir mes émotions, à comprendre ce que je vivais à ce moment-là. Et là, ça apporte une stabilité à l'enfant qui est totalement différente de un parent qui va pas aller s'excuser, donc montrer ça comme normal, ou alors un parent qui va essayer de réparer maladroitement, par exemple en donnant des bonbons, en donnant des cadeaux, voilà, parce qu'il ressent la culpabilité, mais
La
que,
compensation.
oui, voilà, c'est ça, parce que la personne ressent la culpabilité, mais c'est pas quoi en faire, en fait, quoi. Donc voilà,
Mais exactement.
ne pas être,
Et je
pardon,
vas-y, vas-y.
je voulais dire juste que ne pas être parfait, c'est, enfin, pour moi, être parfait, c'est ça. Être parfait, c'est accepter ses imperfections. Donc pour moi, quand je dis oui, ben, ou j'entends la clique des mamans parfaites ou la clique des parents parfaits, etc. Eh ben, c'est pour moi la perfection, c'est montrer que ça va pas tout le temps, c'est accepter que ça n'aille pas tout le temps, c'est accepter ses erreurs, accepter ses bagages, accepter ses difficultés. Et faire, voilà, faire son chemin avec son père, se renseigner un petit peu, parce que bon, juste reproduire, c'est sûr, c'est important, mais pas de tomber dans l'intégrisme de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on lit, quoi.
Mais c'est sûr qu'il faut, il faut, en fait, tout est toujours une question d'équilibre, si tu veux. Après, il faut aussi avoir conscience que ces comportements-là, on va se les retrouver aussi à un moment. C'est-à-dire que dans la dernière série que j'ai fait avec Elodie Crépel, justement, elle donne l'exemple d'une maman qui arrête pas de dire, dès qu'elle fait une erreur, ah oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis nul, ah oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis conne, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu parlais justement, tu vois, il faut prendre soin de soi. Oui, il faut prendre soin de soi parce que pour le coup, comment est-ce que l'enfant peut être en confiance en lui-même si le parent ne l'est
C'est
pas?
ça.
Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir de cette espèce de vision sacrificielle du parent qui donne tout pour son enfant. C'est prenons soin de nous par rapport aussi aux choses qu'on peut intégrer. Parce que concrètement, je vais rester sur l'exemple des VO. Quand tu découvres les VO, le premier choc, enfin un des premiers chocs que tu peux et que tu en as vécu, un des premiers chocs que tu vas subir, c'est mais pourquoi on m'a fait ça? Tu vois? Et là, faut aller réparer.
Et tu répares déjà en toi,
Tu vois?
quoi.
C'est ça. Faut d'abord réparer en soi avant de vouloir machin. Et accepter que justement, pour le coup, comme tu le dis très justement, avec le vécu qu'on a, on peut pas être parfait sur des trucs comme ça. Au contraire, là où je te rejoins aussi totalement, c'est il vaut mieux prendre le temps. Moi, je sais que ma fille, si tu veux, la toute première fois que je lui ai crié dessus, elle devait avoir 7 mois. Et si tu veux, dans les limites, nous, on a par exemple notamment la sécurité et la santé. Et en fait, j'avais pas encore sécurisé les prises électriques. Et elle allait mettre les doigts dedans. Et je hurlais non! Et elle s'est figée, tu vois. Elle s'est figée! Et même si elle, je sais pas si elle a compris ou pas, en tout cas, elle a dû comprendre au moins le langage du corps et le langage
Bien
du
sûr.
cœur. C'est que je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, j'ai eu très très peur qu'il t'arrive ça. Cela dit, j'aurais pas dû crier, c'était pas ma volonté. Et voilà, après, écoute, est-ce qu'elle a compris les mots? Ça, j'en doute. En tout cas, le langage
Bien
corporel
sûr.
était là. Et j'ai juste une petite histoire à te raconter vis-à-vis de ça, c'est que il y a quelque temps, je discutais avec un enfant de 10 ans qui était en conflit avec ses parents et sur un sujet, quelqu'un de ma famille. Et si tu veux, je discute avec lui et on discute des ressentis, de son ressenti, des ressentis de ses parents qui étaient visiblement blessés d'une réaction qu'ils attendaient, qu'ils n'avaient pas eue. Et on en parle et il me dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment de ma faute? Je dis, écoute, est-ce que t'as compris qu'ils étaient blessés? Il me dit, oui. D'accord, bon. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller s'excuser, tu vois, et puis on passe à autre chose? Et là, la réponse, elle a été directe. Ouais, mais eux, quand ils ont tort, ils s'excusent pas.
Ouais.
Non, mais tu vois, ça... et si derrière, t'avais un modèle comme ça de parents qui acceptent d'être imparfaits, de machin de truc, mais en fait, t'as pas ces raisonnements-là qui se mettent en place. T'as des communications très saines.
Et justement, je te rejoins là-dessus sur le fait que l'enfant apprend par l'exemple, principalement, avec ce qu'il a autour de lui. Donc, plus on va accepter d'être imparfait, plus on va accepter, en fait, son chemin, ses erreurs, et ben, plus on va lui apprendre, justement, à s'accepter lui-même aussi, à accepter ses échecs, à accepter ses erreurs, à accepter ses difficultés. Alors que si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire, ben, comment lui, il va apprendre à le faire, quoi, s'il n'a pas l'exemple de quelqu'un qui est droit, qui est bien dans ses baskets, même avec ses erreurs, quoi. Et surtout avec ses erreurs, puisque c'est ça qui nous fait grandir, quand même.
Et puis en plus, faut pas oublier que là, on se parle juste de la parentalité. Autour de la parentalité vient se rajouter toute la pression sociale, parce qu'il faut être... Je prends par exemple l'exemple un peu caricaturé de la mère. Il faut être une mère parfaite, il faut être une travailleuse parfaite, il faut être une épouse aimante et si possible, une maîtresse exceptionnelle au lit. Il faut être une ménagère parfaite, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute une série d'injonctions qui vient se rajouter à d'autres injonctions. Et il y a de quoi péter un câble.
il faut lâcher du lest. Je me rappelle, j'avais vu un petit schéma qui parlait de ce qu'on devait faire justement avec ménage, enfant et tout ça, en disant que c'était pas possible et qu'il fallait en enlever. Ben moi, ça a été clair, hein, c'était le ménage, hein, chez moi. j'aurais du mal à faire une photo Instagram sans passer je sais pas combien de temps, parce que forcément, dans le champ de vision, il y aura des trucs en bordel, quoi.
Mais autant montrer le bordel, j'ai envie de te dire.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, j'ai fait très peu de stories Instagram où je montre des situations chez moi, mais pour les peu que j'ai fait, il y a quand même des gens qui m'ont dit « Ah, c'est pas forcément bien arrangé. »
Non, mais je dis ça, mais quand tu regardes sur mon compte Instagram, si tu regardes le fond des photos, normalement, si t'as pas de la nature, t'as du bordel.
Mais tant mieux, tant mieux. Ça va faire du bien à plein de gens, je pense.
Et oui, voilà, je voulais quand même faire un petit... des petits conseils juste pour aider à pas se ressentir cette injonction à trouver son chemin vers justement un petit peu plus d'indulgence envers soi-même, c'était d'arrêter au maximum de se comparer aux autres. Dire, comme je disais tout à l'heure, on a tous nos bagages, on a tous notre chemin, on a tous nos difficultés, on a tous notre caractère, on a tous notre entourage plus ou moins soutenant. Donc, peu importe ce que va faire le voisin ou la voisine, on ne peut pas être pareil, on ne peut pas faire les mêmes choses, de toute façon. Quoi. Se focaliser aussi sur nos réussites. Parce que quand j'ai parlé, échangé avec des parents qui sortaient nus parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ci ou ça, et ben, en fait, ils ne se rendaient pas compte que ça, ils y arrivaient super bien. Et que là, ils n'avaient pas géré, mais en fait, ça faisait une semaine, par contre, qu'ils n'avaient pas fait ça une seule fois. Enfin, je ne donne pas d'exemple précis parce que ça peut être vraiment n'importe quoi, que ce soit sur l'éducation, avec les enfants, sur la maison, sur n'importe quoi. Et c'est, quand on se focalise trop sur... quand on se compare et quand on est là en train d'essayer de chercher la perfection, on oublie de regarder ce qu'on réussit à faire. Et ça, ça fait du bien. Quand on remarque que ça, j'ai réussi à le faire. Ça, je le fais depuis... ça fait longtemps que j'ai pas... Par exemple, moi, ça a été ne plus dire non. Quand ils étaient tout petits, dire non, comme ton exemple de tout à l'heure, un gros non qui va tout fermer, etc., faire peur, figer, et dire stop, je dis plus non, je peux plus dire non à un enfant, à un tout petit, quoi. Je dis stop quand il va faire quelque chose qui peut être dangereux, mais c'est devenu automatique. Ça a été long, mais quand j'ai vu, je me suis dit, je suis contente, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire ça, quoi, tu vois. Et s'apporter cette vision de nos réussites, donc d'être fier de ce qu'on a réussi à faire, du chemin qu'on a parcouru sur notre propre chemin en comparaison de nos difficultés et pas en comparaison des autres. Voilà, donc c'est tout ce que je pense qui pourrait aider un petit peu à refuser un peu l'injonction à la perfection.
Et je te rejoins complètement, penser au positif, prendre le temps des fois de regarder tout ce qu'on a réussi à faire, tout ce que nos enfants ont réussi à faire. C'est merveilleux des petits riens aussi, ça fait du bien.
Comme par exemple, juste une dernière petite chose
Vas-y.
qui fait du bien à tout le monde, quand on remarque notre enfant qui va reproduire quelque chose qu'on fait avec lui, ou avec elle, le reproduire si naturellement. Par exemple, un petit garçon qui va dire à sa maman, ça va maman, t'es triste? Quelque chose comme ça, parce qu'il a vu que sa maman, bah, elle n'était pas bien aujourd'hui. Et là, on dit, mais on a réussi à apporter ça. Des toutes petites choses comme ça qui nous remplissent en disant, même avec toutes mes erreurs, même avec toutes les choses que j'ai mal fait, et que, voilà, qui sont tout le temps dans ma tête, et bah, je vois qu'en fait, lui, il en retire du bon, quoi. Il en retire un bel exemple. Et ça, c'est un cadeau. Quand moi, j'ai des cadeaux comme ça, je les savoure.
Et t'as bien raison, et je te rejoins complètement, il faut les savourer. Merci beaucoup Virginie pour ce petit moment.
Avec plaisir, Cédric.
À très bientôt.
À bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.